France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
Un sujet velu pour bien commencer la semaine et un théorème sur lequel les astrophysiciens s'arrachent les cheveux. Le théorème de l'unicité de trous noirs, aussi connu sous le nom de théorème de Calvici. Les trous noirs sont-ils chauves ? Selon la relativité générale, black holes have no hair. Un trou noir n'a pas de cheveux. Entendez par là qu'il ne peut se définir que par trois paramètres. Sa masse, sa charge électrique et sa vitesse de rotation. Les trous noirs de même masse, spin et charge sont exactement identiques les uns avec les autres et n'ont pas d'autres caractéristiques physionomiques. Mais ces dernières années, avec des physiciens comme Stephen Hawking et les théories de la gravité modifiée, ils pourraient se doter de chevelures et pourraient en principe exister. Trou noir chevelu, une théorie qui décoiffe. Vincent Vénin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur CNRS, vous travaillez sur la cosmologie de l'univers primordial au laboratoire de physique de l'École normale supérieure. Romain Gerval, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé à l'Institut Denis Poisson et vous êtes le co-auteur de cette étude qui vient de paraître dans la revue Physical Review Letters. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. Venez donc aussi nous rejoindre sur la plateforme Blue Sky. C'est sur notre compte @sciencecqfd et vous y retrouverez toutes nos sources et toutes nos ressources. Alors pourquoi a-t-on longtemps considéré que les trous noirs n'avaient pas de cheveux ? Qu'implique cet aphorisme métaphorique ? À quel point le paradoxe de l'information de Hawking est-il central ? Dans l'étude des trous noirs, nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais on se place sous les auspices de Hubert Reeves, c'est notre archive du jour.
Alors il y a plusieurs modes de formation de trous noirs, probablement qu'on ne les connaît pas tous, mais on en connaît au moins deux. Il y en a un, c'est la mort d'une grosse étoile. Une grosse étoile, disons plus que 10 fois la masse du Soleil, à la fin de sa vie, explose et la matière de l'étoile se disperse dans l'espace, mais il reste au centre un résidu qui, lui, s'effondre sur lui-même et qui atteint une masse, plutôt une densité extrêmement grande. Pour donner une idée, c'est à peu près l'équivalent de la masse d'un grand pétrolier qui serait contenu dans un dé à coudre. Alors, les trous noirs, il y en a des petits, il y en a des gros, il y a toutes les collections. Ceux dont je viens de parler, ceux dont le mode de formation correspond aux résidus d'une étoile massive après l'explosion, eh bien, ceux-là ont à peu près 1 fois la masse du Soleil, 2 fois la masse du Soleil. Donc, un objet comme celui-là qui devient un trou noir, son rayon est d'à peu près 10 kilomètres. Imaginez la masse du Soleil concentrée dans une sphère de 10 km de rayon. Ça, c'est la première variété. Alors, il y a une autre variété de trous noirs qui sont beaucoup plus gros. Ils font de 1 million à 100 millions de fois la masse du Soleil. Et ceux-là, on les retrouve au centre des galaxies. Il est vraisemblable, mais pas certain, que toutes les galaxies ont un trou noir dans leur centre. Nous en avons un qui est modeste, il fait à peu près 3 millions de fois la masse du Soleil. Par rapport à une galaxie comme M87, qui est la galaxie centrale de notre amas, l'amas de la Vierge, celui qui est là fait à peu près 100 millions de fois la masse du Soleil.
Voilà les trous noirs extraits du CD de Hubert Reeves, Astronomie volume 1, enregistré en 2005. Vincent Vénin, on l'entendait dans cette archive, des trous noirs, il y en a des petits, il y en a des gros. On a toute une collection, une vaste collection de trous noirs, un bestiaire où on observe une grande variété de trous noirs.
Oui, tout à fait. Alors déjà, je voudrais souligner que cette archive, elle est assez plaisante pour nous à écouter parce que je pense que Romain et moi, on fait tous deux partie d'une génération où Hubert Reeves, quand on était gamin, c'était une des figures très inspirantes et sans doute une des raisons pour lesquelles on fait le métier qu'on fait aujourd'hui. Donc merci de nous avoir proposé de l'écouter. Il nous a tristement quitté récemment. Donc ça fait toujours plaisir d'entendre la voix d'Hubert Reeves.
Merci à Olivier Bétard, notre réalisateur. Et on est toujours content de commencer l'émission avec cette voix chaleureuse.
Exactement. C'est vrai. Ce qui est intéressant aussi dans son propos, c'est qu'il dit il y a deux catégories de trous noirs, il y a des trous noirs qui sont grosso modo, qui ont une masse qui est proche de celle du Soleil, et cela, on comprend comment ils peuvent se former par effondrement d'une étoile en fin de vie, si l'étoile est suffisamment grosse, quand elle a fini de brûler son matériel radioactif, en fait, il n'y a plus rien qui l'empêche de s'effondrer sur elle-même, donc les forces de gravité prennent le devant, et ça peut donner lieu à un trou noir. Et puis il dit, il y a d'autres trous noirs, qui sont ceux qui existent au centre des galaxies, qui sont beaucoup plus gros, qui ont des masses qui sont de l'ordre du million de la masse solaire, ou peut-être jusqu'à 100 millions de la masse solaire. Et en fait, là, son propos s'arrête. Et là, il dit pas comment il pourrait exister ces trous noirs-là. Et c'est bien là, c'est bien une des questions qu'on se pose, parce que, en effet, on comprend pas aujourd'hui comment ces trous noirs peuvent exister, dans la mesure où il y a évidemment pas d'étoiles qui pèsent un million de fois la masse du Soleil. On l'a jamais observé. Alors, on pourrait imaginer que c'est pas grave. Il suffit de fabriquer un trou noir léger, de l'ordre de quelques fois la masse du Soleil, et qu'après ce trou noir va avaler des choses autour de lui, qu'il va y avoir de la matière qui va tomber dedans, ou qui va peut-être fusionner avec d'autres trous noirs, et que par ces processus-là, il va grossir. Mais en fait, ça fonctionne pas très bien. Il semble que quand on essaye de faire un calcul un peu réaliste dans un environnement astrophysique donné, on n'atteigne jamais un million de fois la masse du Soleil. Donc c'est un mystère. Ils peuvent pas venir d'étoiles qui s'effondrent sur elles-mêmes, et j'imagine on l'évoquera plus tard dans l'émission, mais une explication possible, c'est qu'ils c'est une origine différentes, et que ce soit les trous noirs primordiaux qui aient existé depuis le début de l'univers.
Voilà, les trous noirs primordiaux dont Hubert Reeves ne parle pas dans cette archive, Romain Gerval.
Effectivement, comme l'a dit Vincent, l'une des possibilités pour expliquer la formation des trous noirs supermassifs, c'est l'origine primordiale, donc des trous noirs qui auraient été créés dans les tout premiers instants après le Big Bang, donc moins d'une seconde après le début de l'univers, on peut le dire. Et en plus, cette possibilité que ça soit des trous noirs primordiaux, on peut encore plus l'appuyer avec des observations qui ont été faites par le télescope spatial James Webb, qui nous fournit des superbes images du cosmos. Et en particulier, James Webb a observé des galaxies vraiment très 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 vieilles. J'ai pas leur âge en tête, mais ça remet encore plus en question l'origine des grandes structures, et notamment le trou noir au centre des galaxies. Et j'ai lu différents articles qui montrent que ça pourrait être une possibilité viable, que ça soit des trous noirs primordiaux qui aient été à l'origine de la formation de ces galaxies très très précoces, en accrétant de la matière autour d'eux. Et par la même occasion, ça serait du coup aussi une explication pour les trous noirs supermassifs qui seraient d'origine primordiale.
Ces trous noirs primordiaux qui ne sont pour le moment que des objets hypothétiques. Avant de parler de tout un tas d'objets qui sont considérés aussi parfois comme exotiques, peut-être qu'on peut revenir sur la définition du trou noir, Vincent Vénin. Au départ, un trou noir, c'est une solution mathématique.
Exactement, c'est vraiment comme ça qu'il faut le présenter, je crois. C'est une solution mathématique d'équations très compliquées qui s'appellent les équations de Einstein et qui décrivent l'espace-temps et notamment les forces de gravité qui s'exercent à l'intérieur de cet espace-temps. Donc quand Einstein a proposé sa théorie sous la forme d'une équation qui porte son nom, peu de temps après, les gens ont réalisé qu'on pouvait trouver une solution. Il existe, il faut le dire, très peu de solutions exactes à ces équations. Ce sont des équations tellement compliquées qu'on en connaît extrêmement peu de solutions. Mais il y a une solution, enfin il y a une famille de solutions que les gens ont peu à peu construit, qu'on appelle les solutions de type trou noir, à l'intérieur desquelles l'espace-temps possède une région très particulière auquel on donne le nom d'horizon. Et qu'est-ce que c'est qu'un horizon ? C'est une région qu'on peut traverser que dans un sens. C'est-à-dire que les particules peuvent passer d'un côté à l'autre de l'horizon sans problème. Elles ne ressentent rien d'ailleurs quand elles traversent l'horizon. Et par contre, une fois qu'elles sont passées de l'autre côté, elles ne peuvent plus revenir. Ce qui veut dire que si vous, observateur, vous vous situez d'un côté de l'horizon, donc nous, les trous noirs qu'on observe, on se situe loin de ces trous noirs-là, donc on est à l'extérieur de l'horizon, on ne voit rien qui provienne de l'intérieur de l'horizon, puisque toutes les particules qui ont traversé l'horizon ne peuvent plus en ressortir. Donc c'est pour ça qu'on les a appelés trous noirs, c'est parce que si vous observez, si vous pointez votre télescope dans la direction d'un trou noir, vous ne voyez rien, vu que rien ne peut traverser l'horizon. Ça, voilà. Et ça donne, cet horizon donne lieu à tout un tas de propriétés un petit peu, un peu étranges, un peu difficiles à appréhender, et c'est la raison pour laquelle pendant longtemps, ils étaient pensés comme un peu des particularités de la relativité générale, mais jusqu'à ce qu'on les observe, on avait un peu des doutes sur leur existence, à vrai dire.
C'est parce que de la découverte théorique, de la solution mathématique, aujourd'hui, on a des observations très directes, Romain Gerval.
Oui, tout à fait. Alors, les premiers indices de trous noirs, ça a été, si je ne dis pas de bêtises, le trou noir qui est au centre de la Voie lactée. En observant la région la plus proche du centre de notre galaxie, on voyait qu'il y avait des étoiles qui tournaient autour d'un objet qui n'apparaissait pas, qui avait l'air d'être totalement invisible. Et avec l'amélioration des précisions d'observation de ces trajectoires d'étoiles, on s'est rendu compte en plus que cette zone autour de laquelle tourne l'étoile est vraiment très 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 petite. Et donc, en sachant qu'il y a des solutions mathématiques qui décrivent des trous noirs qui existent, on s'est dit que ça pourrait être ça qu'il y a au centre de notre galaxie. Et puis, du coup, ça a valu un prix Nobel aux personnes qui ont fait ces observations.
C'est ça, 2018, c'est l'instrument Gravity du VLT, du Very Large Telescope, qui observe l'étoile S2 au moment où elle passe au plus près de Sagittarius à étoile. Ce Sagittarius à étoile, on en a d'ailleurs une photo, la première imagerie directe, première image de l'histoire de l'astronomie, c'est M87 étoile, qui était d'ailleurs évoquée par Hubert Reeves également dans notre archive, Vincent Vénin.
Exactement, oui, c'est vrai qu'on a maintenant des vraies photographies en vrai, de trous noirs, notamment ceux dont parlait Hubert Reeves dans l'archive, donc celui au centre de nos galaxies, celui au centre d'une galaxie voisine. Alors en réalité, on n'a pas une photographie du trou noir puisque comme je l'ai dit, un trou noir n'émet pas de lumière. Donc si on était vraiment capable de prendre en photo un trou noir, l'image serait noire et ça ne ferait pas la première du New York Times et des journaux dans lesquels cette image a été reléguée. En fait, ce qu'on voit, c'est un disque de matière autour du trou noir qu'on appelle un disque d'accrétion, qui est de la matière qui tourne de façon très rapide autour du trou noir. Et le mouvement de rotation est tellement rapide qu'il y a des chocs qui se créent à l'intérieur du disque. Ces chocs ont pour effet de chauffer la matière, et comme la matière chauffe, elle rayonne, elle émet de la lumière, des photons. Donc c'est cette lumière-là qu'on voit. On dit parfois qu'on voit l'ombre du trou noir, parce qu'en réalité c'est l'effet du trou noir sur son disque qu'on observe. Mais néanmoins, c'est une prouesse technologique déjà extraordinaire. Et en plus, elle fournit tout un tas d'informations scientifiques importantes, parce qu'en fait, les propriétés du trou noir, déterminent celles de son disque d'accrétion. Donc en sondant la façon dont ce disque d'accrétion émet de la lumière, on a pu remonter certaines propriétés du trou noir, tester la relativité générale aussi, dans des régimes où on ne l'avait pas fait jusque-là. Donc voilà, c'est une des indications très fortes qu'on a aujourd'hui.
Ce sont des objets qui ne peuvent ni émettre ni diffuser la lumière, c'est donc pour ça aussi qu'on les appelle noirs, d'ailleurs en astronomie. Hein. Noir, ça revient à dire que c'est optiquement invisible, Vincent Vénin.
C'est ça, ils sont optiquement invisibles, ils n'émettent pas de lumière puisque rien ne peut sortir du trou noir. Alors, il existe en réalité une limite à ça, qui est un phénomène quantique. Donc, cette propriété, la propriété que la lumière ne peut pas sortir de l'horizon du trou noir, ou n'importe quoi d'ailleurs, c'est une propriété classique. En réalité, ce que Stephen Hawking a montré aussi, c'est qu'au voisinage de l'horizon, il y a un phénomène quantique qui se produit, sur lequel on reviendra peut-être un peu plus tard, mais par lequel des particules sont créées de façon spontanée, hein, à partir du vide. En fait, on extrait de l'énergie du vide et on fabrique des particules. Certaines de ces particules tombent vers l'intérieur du trou noir, d'autres s'en échappent. Et donc, il existe un rayonnement autour du trou noir, qu'on appelle rayonnement de Hawking, et qui joue un rôle important dans la vie des trous noirs légers, mais qui, sur le plan observationnel, aujourd'hui, est totalement indétectable et sans doute le restera pendant longtemps encore.
Rayonnement qui n'a donc jamais été observé. En effet, Stephen Hawking en 1974 stipule que les trous noirs rayonnent eux aussi de la lumière. Mais avant de parler de Stephen Hawking et de son fameux paradoxe de l'information, pour parler justement, toujours essayer de définir ces bestioles-là, Romain Gerval, pourquoi dit-on qu'un trou noir est chauve ? D'où ça vient ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de capillarité des trous noirs ?
Alors, en fait, à la base, ça vient d'un résultat mathématique qui est appelé maintenant théorème de Calvici. Vous l'avez mentionné en introduction. Et vous avez aussi fait mon travail en disant que ce théorème stipule que les trous noirs ne sont caractérisés que par quelques paramètres. Donc, dans un certain sens, on pourrait dire que c'est des objets extrêmement simples. Donc, ces paramètres, c'est la masse, la vitesse de rotation et la charge électrique ou magnétique. Et en gros, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a pas un cheveu qui dépasse de l'horizon. Et donc, toute l'information de ce qui tombe à l'intérieur va être perdue. Sinon, mathématiquement, le théorème de Calvici, il signifie que tous les trous noirs sont caractérisés par une certaine solution des équations d'Einstein, qui s'appelle solution de Kerr. Et en fait, avec les observations astronomiques, comme par exemple les images que vous avez mentionnées tout à l'heure, on est capable de comparer vraiment l'image du trou noir avec les prédictions que donne la théorie à partir de la solution qui a été trouvée par Kerr, et donc qui s'inscrit dans le théorème de Calvici.
Pour revenir sur ces caractéristiques, Vincent Vénin, ça veut dire que les trous noirs stellaires, par exemple, qui sont le trou noir de type standard, un cadavre d'étoile, ils ne gardent aucune mémoire de l'étoile qui s'est effondrée pour mener à leur formation.
Exactement, c'est ça qui est très particulier dans cette solution, c'est pour ça que c'est aussi intriguant, parce qu'en général, en physique, les propriétés de l'espace-temps autour d'un objet dépendent de l'ensemble des propriétés de cet objet. Donc, pour prendre une analogie, si je prends un ballon et que je cache à l'intérieur des choses, et que je vous interdis de regarder le ballon est opaque, vous n'avez pas regardé ce qu'il y a à l'intérieur. Mais par contre, je vous autorise à faire toutes les mesures que vous voulez autour du ballon. Donc, vous pouvez prendre des détecteurs, aller sonder l'espace-temps autour du ballon. En fait, si vous utilisez les lois de la physique, vous devriez être capable de me dire ce que j'ai mis à l'intérieur du ballon. Mais pour un trou noir, il semble que ce soit pas vrai, selon le théorème de la calvitie, dans le sens où, imaginez que je prenne un objet sphérique constitué, par exemple, de protons et d'électrons. Donc, les protons sont des particules qui ont une charge électrique positive, les électrons ont une charge électrique négative, et je les assemble de sorte que le trou noir, globalement, l'objet n'a pas de charge électrique, et je fabrique un trou noir avec. Et d'un autre côté, je prends un paquet de neutrons, qui sont des particules qui n'ont pas de charge électrique, mais qui sont différentes des protons et des électrons. Elles ont des propriétés qui diffèrent de celles des protons et des électrons à bien des égards. Et je fabrique un trou noir avec. Et je vous les présente, là, dans le studio de Radio France. Et ben, il n'y a aucun moyen que vous puissiez faire la différence entre les deux. Si vous ne traversez pas l'horizon, vous ne pouvez pas aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et les deux trous noirs vont avoir exactement les mêmes propriétés vues de l'extérieur. Ils ne sont définis que par leur masse, leur charge électrique. Dans l'exemple que j'ai pris, ils n'ont pas de charge électrique. Et éventuellement, un mouvement de rotation sur eux-mêmes. Donc là, on a un exemple en physique, c'est assez intriguant, d'objets où vous pouvez faire tout ce que vous voulez autour, vous ne pouvez pas remonter ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est à la fois très bien pour des théoriciens comme nous, parce que il y a un côté très attrayant d'avoir un objet si simple où finalement ça dépend pas de ce qui s'est passé avant. J'ai une solution de trou noir, je peux l'utiliser, je me fiche un peu de savoir si ça vient d'une étoile qui était comme ci ou comme ça. Mais le prix à payer, c'est que si maintenant vous me demandez l'origine du trou noir, d'où il vient, eh ben je suis bien embêté pour vous répondre, parce que je peux juste vous donner sa masse, sa charge électrique et sa vitesse de rotation sur lui-même. Donc savoir s'il vient d'une étoile qui était comme ci ou d'un trou noir, savoir si c'est un trou noir primordial ou autre chose, je peux pas vous répondre.
Alors pourquoi les trous noirs ne sont-ils peut-être être pas si chauve et après tout pas si noir mais gris? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Direct sur France Culture avec Vincent Vénin et Romain Gerval, nous parlons d'un sujet poilu, nous parlons de trou noir chevelu ou de la découverte théorique d'une nouvelle forme de trou noir. On a considéré que le trou noir était chauve, car en relativité générale, la théorie d'Einstein qui marche très bien, il n'est pas possible pour les trous noirs d'avoir des cheveux. Mais ces dernières années, avec les théories de la gravité modifiées, ils peuvent en avoir. Vincent Vénin, quelles sont les motivations théoriques pour modifier la gravité? Ça, c'est l'énigme de la matière noire et de l'énergie sombre.
Exactement. Donc, il y a plusieurs. En fait, bon, l'histoire de la gravité modifiée, c'est une histoire qui commence maintenant à être relativement ancienne. Les gens se sont rendus compte que si on appliquait la relativité générale pour décrire l'univers et dans son ensemble, son histoire, la façon dont il s'est étendu, dont il est né, dont il continue d'évoluer, alors on arrivait à expliquer de façon remarquable la quasi-totalité des phénomènes observés. Mais il existe quand même certaines observations, des aspects du modèle qui sont un peu intrigantes, notamment la présence de matière noire, c'est-à-dire le fait qu'il semble exister dans l'univers une forme de matière qu'on ne voit pas, donc qui n'émet pas de lumière, mais qui agit par l'intermédiaire de la gravitation, c'est-à-dire qui influence gravitationnellement les objets autour d'eux. C'est comme ça qu'on sait que la matière noire existe. Et cette matière noire, elle ne peut pas être constituée des particules que l'on a identifiées, les particules qu'on a déjà observées dans les accélérateurs de particules, par exemple. On a observé tout un tas de particules. La matière noire ne peut pas être fabriquée de ces particules-là, parce que si c'était le cas, alors elles émettraient quand même un peu de lumière et on l'aurait vu. Donc, il y a un peu deux grandes explications possibles à cela. Soit vous dites qu'il existe des particules qu'on n'a jamais observées, donc une explication tout à fait naturelle. Et donc, c'est par exemple une des raisons pour lesquelles on a construit le LHC, l'accélérateur de particules à Genève, c'est pour essayer d'aller trouver des particules qui étaient candidates à être celles de la matière noire. Et puis, la deuxième explication possible, c'est de de dire que finalement, on infère la présence de matière noire en utilisant les lois de la gravité et en disant pour que les objets visibles autour de moi se déplacent de la façon dont ils se déplacent, étant donné les lois de la gravité, c'est qu'il doit exister de la matière noire. Donc peut-être que là où on s'est trompé, c'est dans la partie étant donné les lois de la gravité. C'est-à-dire peut-être que les lois de la gravité sont différentes à des très grandes distances dans l'univers et qu'en fait, il n'y a que de la matière visible qui a l'air de se comporter bizarrement juste parce qu'elle obéit à une théorie de la gravité différente. Donc c'est une des raisons pour lesquelles les gens ont essayé de modifier la relativité générale.
On peut se dire que, voilà, que c'est la relativité générale le problème. Et dans cette théorie de la gravité modifiée, les trous noirs ont des cheveux, Romain Gerval.
En fait, le théorème de Calvici il repose sur un certain nombre d'hypothèses. L'une d'entre elles, c'est que la gravité est décrite par la théorie d'Einstein. Donc, ce qui veut dire que si on considère une théorie alternative, alors on va pouvoir avoir de nouveaux trous noirs qui sont caractérisés par d'autres paramètres que ceux qu'on a évoqués jusqu'ici. Mais l'autre hypothèse importante, c'est que on considère uniquement, à part la gravité, l'électromagnétisme, donc c'est-à-dire tous les phénomènes qui sont liés à l'électricité, le magnétisme, mais aussi la lumière. Et la gravité et l'électromagnétisme, c'est raisonnable de considérer uniquement ces deux forces-là, parce que ce sont les forces qui agissent à l'échelle macroscopique. Mais en fait, si on choisit d'ajouter d'autres forces dans le modèle, donc même sans modifier la gravitation, on peut garder la relativité d'Einstein, mais on rajoute d'autres forces dans le modèle, on peut aussi obtenir des trous noirs chevelus. Et c'est justement ce que nous, on a fait dans notre publication dans Physical Review Letters. On a rajouté l'interaction nucléaire faible, qui est responsable de la radioactivité, dans le modèle, afin d'essayer de trouver de nouveaux types de trous noirs, et c'est ça qu'on décrit dans notre publication.
Et on reviendra dans quelques instants sur votre découverte théorique, mais avant, peut-être revenir sur justement la naissance du problème avec Stephen Hawking, le paradoxe de l'information, Vincent Vénin. Qu'est-ce qui fait qu'on a pensé que les trous noirs devaient avoir d'autres propriétés, hein? Parce que est-ce que c'est seulement avec le paradoxe de l'information de Hawking, et peut-être redessiner ce que stipule ce paradoxe?
Alors c'est vrai qu'en physique théorique, souvent quand on parle de trous noirs, on parle d'information. Et les deux concepts sont reliés, c'est pas évident tout de suite de comprendre pourquoi, mais c'est vraiment lié à cette propriété d'horizon, c'est-à-dire c'est lié au fait qu'une fois que quelque chose est passé de l'autre côté de l'horizon, il revient jamais vers vous. Et donc ça veut dire que si vous prenez un livre dans lequel vous écrivez votre journal intime et que vous l'envoyez vers un trou noir, en fait, le livre, une fois qu'il a passé l'horizon du trou noir, il est plus accessible pour vous et pour personne d'autre. Et donc là, vous pouvez être sûr que votre secret, il est gardé éternellement. Alors, en physique, l'information n'est jamais perdue. En tout cas, c'est ce qu'on comprend de la physique. Donc, par exemple, si vous prenez votre livre maintenant, votre journal intime, et que vous le jetez dans le feu de votre cheminée, en fait, l'information n'est pas perdue. Évidemment, ce sera très difficile pour moi, si je reviens après et que je récolte les cendres au fond de votre cheminée, de les recoller ensemble pour reconstituer le journal intime et lire votre vie. Mais, en théorie, je peux le faire parce que l'information n'a pas été effacée. Les atomes qui constituent le livre existent toujours, ils sont juste dispersés différemment dans l'espace. Bon, dans un trou noir, c'est un peu différent parce que ce qui est de l'autre côté de l'horizon, vraiment, on ne peut pas ressortir. Alors, vous pourriez dire, c'est pas grave parce que l'information, elle n'est pas perdue, c'est juste qu'elle est ailleurs, dans une région où je ne peux pas me rendre. Mais ce qui un petit peu corse la discussion, c'est le rayonnement de Hawking. Pourquoi ? Parce que le rayonnement de Hawking vous dit, un autre ingrédient, vous dit que le trou noir rayonne très légèrement. Hein, c'est ces fluctuations quantiques qui existent au voisinage de l'horizon. Et en fait, comme le trou noir émet des particules vers vous, ça veut dire que lui, il perd de la masse. Donc un trou noir perd de la masse très 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 doucement, c'est quasiment imperceptible pour des trous noirs de masse stellaire, mais pour des trous noirs tout petits, tels que peut-être des trous noirs primordiaux, cet effet est relativement notable et il conduit à une évaporation, ce qu'on appelle l'évaporation de Hawking, l'évaporation du trou noir petit à petit. Et alors si on prend les équations de la relativité générale et qu'on mène le calcul de Hawking à l'intérieur, qu'est-ce qu'on prédit ? On prédit qu'il existe un temps au bout duquel le trou noir s'est entièrement évaporé. Et là, malheur, parce que le journal intime que vous avez jeté dedans, il a vraiment disparu. L'information, elle a vraiment disparu. Elle n'est pas contenue dans les particules de Hawking qui se sont évaporées, parce que elles sont indépendantes. C'est un phénomène quantique qui est indépendant de l'état microphysique du trou noir. Donc vraiment, l'information a disparu. Bon, et ça, on n'est pas content du tout, nous, les physiciens théoriciens, avec
ce
ça.
Ce qu'on appelle un paradoxe.
Voilà, c'est un paradoxe, parce que en physique, on ne connaît aucun exemple d'effacement de l'information. L'information existe toujours quelque part. Donc, soit on se dit que, en fait, l'information a un statut presque enfin, la nature de ce que c'est que l'information en physique doit être revue et repensée. Soit on se dit qu'en fait peut-être que cette évaporation n'est jamais menée jusqu'à son terme, qu'il existe des phénomènes qui empêchent un trou noir de s'évaporer entièrement, mais pour que ça se soit vrai, il faut donc décrire les trous noirs un peu différemment, et donc voilà, c'est pour ça que c'est souvent très lié.
La résolution mathématique de ce paradoxe, les trous noirs ne sont pas chauves, donc ça, quand on parle de trou noir chevelu, ça veut dire qu'il peut être caractérisé par des paramètres supplémentaires que la masse, la charge ou la vitesse de rotation, Romain Gerval.
Oui, alors en fait, pour présenter qu'est-ce que c'est un trou noir chevelu, le plus simple, c'est dans un premier temps d'oublier cette histoire de paramètres et de voir qu'est-ce que ça veut dire que le trou noir est chauve d'abord. En fait, un trou noir chauve, si on oublie toute la matière qu'il y a autour, donc le disque d'accrétion dont par exemple Vincent a parlé tout à l'heure, alors l'espace autour du trou noir est entièrement vide. Et en quelque sorte, c'est pour ça qu'on peut rien mesurer d'autre que des paramètres très basiques tels que la masse, la charge, la vitesse de rotation. Maintenant, qu'est-ce que c'est un trou noir chevelu ? En fait, un trou noir chevelu, c'est un trou noir qui est entouré par une coquille de matière, on va dire. Donc cette matière peut être de différentes natures. Mais cette coquille de matière, elle est vraiment intrinsèquement liée au trou noir. C'est-à-dire qu'elle fait partie du trou noir lui-même. C'est pas de la matière environnante, c'est quelque chose qui fait partie du trou noir, même si c'est à l'extérieur de l'horizon des événements. Et ensuite, pour en revenir aux paramètres, donc si on a une coquille de quelque chose autour du trou noir, alors il y a de l'information et d'autres paramètres que l'on peut mesurer de cette coquille, donc qu'on appelle le cheveu.
Romain Gerval, votre directeur de thèse, Monsieur Volkov, qui a travaillé sur les trous noirs chevelus, il a été un des premiers à faire des découvertes théoriques justement sur ces bestioles-là.
Oui, tout à fait. Alors, Mikhail Volkov, donc mon ancien directeur de thèse, il a obtenu la première solution explicite qui décrit un trou noir chevelu. Alors, pour les obtenir, qu'est-ce qu'il a fait ? Donc, il a gardé la théorie d'Einstein pour décrire la gravitation et il a rajouté un autre ingrédient qui décrit en quelque sorte une approximation de la force nucléaire faible. C'est-à-dire qu'il n'a pas considéré vraiment l'interaction faible plus la gravitation. Il a considéré un modèle simplifié, mais qui était très très étudié à l'époque, à cette époque-là. Et en résolvant les équations numériquement à l'aide d'ordinateurs, ils ont obtenu la première solution d'un trou noir chevelu.
Dans votre parution que vous avez donc co-publiée dans Physical Review Letters, cette découverte théorique, vous révélez donc une nouvelle forme théorique de trou noir. À quoi justement ressemblent ces trous noirs chevelus ? Vous évoquez une sorte de coquille de matière. Comment on peut se les représenter ? Et puis, de quoi seraient faits ces cheveux ?
Alors, donc l'exemple dont je disais tout à l'heure, la coquille, ça c'est dans le cas le plus simple où le trou noir est sphérique. Nous, dans notre cas, les trous noirs, ils sont axisymétriques. Donc, en fait, la forme du cheveu, on peut les voir comme des anneaux, comme les anneaux de Saturne. Mis à part que dans le cas de Saturne, les anneaux de Saturne, c'est de la matière environnante, c'est de la poussière qui s'est mise autour de la planète. Tandis que là, les anneaux autour des trous noirs qu'on a étudiés sont vraiment intrinsèquement liés aux trous noirs. Et de quoi sont constitués ces anneaux ? Et ben en fait, donc puisque on a choisi de considérer la gravitation avec l'électromagnétisme plus la force faible, les particules dont sont constitués les cheveux de nos trous noirs sont les particules du modèle standard. Alors, c'est-à-dire que ce sont les bosons W, les bosons de Higgs et bosons Z, qui sont des particules qui n'existent... Parce que c'est des particules instables, normalement, qui se désintègrent extrêmement vite. On les observe dans les accélérateurs de particules en faisant collisionner des protons à très très grande vitesse. Et ces particules composeraient les cheveux des trous noirs qu'on étudie.
Vous dites, hein, vous avez pris en compte trois forces fondamentales. Pourquoi ne pas prendre en compte la quatrième interaction, l'interaction forte ?
Alors oui, c'est une très bonne question. Alors l'interaction forte qui viendrait compléter le tableau pour vraiment considérer tout le modèle standard, en fait, c'est une force qui n'agit vraiment qu'à l'échelle du microscopique. Et donc, pour étudier l'interaction forte, on est obligé de faire de la physique quantique. Donc, Ça peut sembler obscur, physique quantique, pas physique quantique, qu'est-ce que ça change? En fait, pour le dire très simplement, le langage de la physique quantique est un autre langage que celui de la physique classique que moi je fais. Donc en fait, il faudrait réussir à unifier la gravitation et la physique quantique pour prendre en compte cette interaction forte. Et pour l'instant, ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Les théoriciens s'arrachent les cheveux à construire diverses théories quantiques de la gravitation, enfin la théorie des cordes, la théorie des super, la théorie des boucles. Donc voilà. En fait, nous, vu qu'on ne prétend pas vouloir faire de la physique quantique, et aussi qu'on décide d'étudier des trous noirs qui sont suffisamment gros, on ne prend pas en compte la force forte.
La théorie quantique et classique, c'est pas le même langage mathématique, mais est-ce que c'est pas un problème justement de pas prendre en compte la physique quantique quand on parle et quand on étudie le problème des trous noirs?
Alors en fait, tout est une question d'échelle. Tant qu'on étudie des objets qui sont suffisamment gros, alors on n'a pas besoin de prendre en compte la physique quantique. Alors bien sûr, cette limite d'objets suffisamment gros, c'est quelque chose de très très flou, mais par exemple, pour donner un chiffre concret, nos trous noirs peuvent atteindre un rayon de l'ordre du centimètre. Donc un objet de 1 centimètre, on s'attend à pouvoir le décrire correctement avec la physique classique. Là où la physique quantique pourrait quand même rentrer en compte, c'est pour décrire ce qui se passe à l'intérieur du trou noir. Et donc ça, que ça soit un trou noir chevelu ou un trou noir chauve, on aurait besoin effectivement de physique quantique pour décrire ça, mais nous on décrit uniquement ce qui se passe à l'extérieur.
Vincent Vénin.
Oui, tout à fait. En fait, tout est quantique. Donc dans votre vie quotidienne, tous les objets que vous manipulez, vous-même, vous êtes un être quantique. Mais c'est rare que vous en fassiez l'expérience directe parce que votre masse, l'énergie caractéristique qui vous décrit, etc., sont telles que les effets quantiques sont très faibles. Et donc, si vous utilisez la physique classique pour décrire le verre d'eau qu'il y a devant vous ou le poste de radio, si vous êtes face à votre poste de radio, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde que ça fasse un poste de radio de nos jours, mais la physique classique sera amplement suffisante. Les phénomènes, les mécanismes dans lesquels la physique quantique joue un rôle majeur, en fait, on est capable de identifier a priori quelles seront les masses de trous noirs pour lesquelles les effets quantiques, par exemple, seront importants. Et si on considère les trous noirs qui sont loin de ces régimes-là, alors on peut faire confiance à la physique classique. Il y a simplement... Je voulais simplement mentionner une chose, c'est que tout à l'heure, quand je disais, quand on parlait d'évaporation des trous noirs, un trou noir qui s'évapore, c'est un trou noir dont la masse diminue. Et donc, si sa masse diminue, il y a un moment donné où sa masse devient très faible, et donc, nécessairement, il doit être décrit de façon quantique. Donc, c'est une des grosses inconnues du paradoxe de l'information, c'est que si on fait confiance aux équations de la physique classique jusqu'au bout, on décrit que le trou noir s'évapore jusqu'au bout et qu'il n'en reste plus rien. Mais en fait, quand on fait ça, on sait qu'on fait une erreur de toute manière, puisqu'on sait qu'il arrive un stade où le trou noir est tellement petit, hein, en fait, quand sa masse devient de l'ordre de ce qu'on appelle la masse de Planck, qui est 10 puissance moins 8 kilos, donc ça paraît petit comme ça, mais en fait ça devient une masse assez importante. À partir de ce moment-là, les effets de gravité quantique doivent jouer un rôle, et comme on n'a aucune idée de comment les décrire, ben...
Ouais. Alors, cette nouvelle forme de trou noir que vous décrivez concernerait les trous noirs dits primordiaux, c'est-à-dire ceux qui se sont formés à la création de l'univers. Restez avec nous, on y vient.
Tu me vois dans cet état, peut-être pour la dernière fois.
Courage, c'est comme un trou noir.
Satellite Jockey. Trou noir, car nous parlons de trou noir en direct sur France Culture et de trou noir chevelu. On en parle avec nos deux invités du jour, Vincent Vénin, chercheur CNRS au laboratoire de physique de l'École Normale Supérieure, et Romain Gerval, chercheur associé à l'Institut Denis Poisson et l'auteur de l'étude parue dans la revue Physical Review Letters. On vient d'évoquer de nombreux types de trous noirs. Les trous noirs primordiaux, dont nous avons parlé, pourraient prendre plusieurs formes. Ils peuvent être des objets célestes très compacts, et dans ce cas, ils sont assez proches des trous noirs stellaires, mais ils pourraient aussi être des bouts d'univers tout entier. Et c'est le sujet de notre reportage du jour, et c'est avec vous Loïc Dutoit, bonjour.
Bonjour Natacha.
Alors pour comprendre un peu mieux ce que sont ces trous noirs, Loïc, je crois que vous nous emmenez en randonnée.
Oui, tout à fait, nous partons en montagne. Alors je ne vais pas vous mentir, ce sera certainement la balade la plus abstraite de toute votre vie. En réalité, nous partons gravir les pentes de modèles théoriques qui décrivent l'inflation cosmique. L'inflation cosmique, c'est cette fraction de seconde, juste après le Big Bang, durant laquelle notre univers a été multiplié par plus de 100 millions de milliards de milliards. Et pour mieux comprendre cette période, trois astrophysiciens ont mis au point une simulation numérique et ils ont publié leurs résultats dans la revue Physical Review Letters en octobre dernier. J'ai pu rencontrer l'un d'entre eux à l'Institut d'astrophysique de Paris où il travaille. Sébastien Renaud-Pétel est chargé de recherche du CNRS et professeur à l'école polytechnique. Il m'a expliqué qu'en testant différents modèles théoriques dans leur simulation, lui et ses collègues ont découvert avec surprise la possible existence de trous noirs primordiaux tout particuliers.
Il y a une image qu'on peut avoir pour expliquer l'effet que nous avons mis en exergue, c'est l'image de randonneur qui ferait une randonnée sur une vallée en pente douce. Imaginons cette vallée en pente douce, ça correspond à la physique de l'inflation qu'on connaît typiquement ce premier 1 sixième. Et ce qu'on peut imaginer dans cette phase plus tardive, c'est une structure plus compliquée. En plus de la vallée en pente douce, on peut imaginer des petites collines, qui fait que globalement, la randonnée serait en descente, mais de temps en temps, on aurait des petites montées, puis à nouveau une descente, une petite montée, une descente. Ça représente les lois de la nature, la théorie qu'on peut imaginer, qui décrirait cette phase d'inflation. Et alors, si ces petites collines ont une faible amplitude, si on fait une randonnée comme ça, on peut imaginer ce qui va se passer. Tous les gens vont arriver au bout de la randonnée avec un petit écart. Et ça correspondrait à une théorie de l'inflation qu'on peut décrire de manière simple en théorie des perturbations. Mais si les collines, si les hauts et les bas de la randonnée deviennent de plus en plus encaissés, alors on peut imaginer que à cause de méformes d'un randonneur par rapport à l'autre, certains vont aller de plus en plus vite, d'autres de moins en moins vite, au point que le groupe va pouvoir se casser en deux, ou en trois, et que certains vont réussir à passer les collines en question et finir la randonnée, arriver à passer ces montagnes russes et arriver dans un endroit où la vallée redevient en pente douce, alors que d'autres ne vont plus avoir d'énergie et vont rester coincés dans un de ces minimums de la vallée. C'est exactement ça que nos simulations ont pointé du doigt.
Dans votre analogie, les randonneurs, c'est des bouts d'univers, en fait.
Exactement.
Donc, ce que ça veut dire, un randonneur qui reste bloqué dans une vallée, c'est qu'un bout d'univers est resté bloqué dans une phase d'inflation. Et les simulations de Sébastien, elles permettent de voir combien de ces bouts d'univers restent bloqués dans une phase inflationnaire en fonction des différents modèles théoriques qui sont possibles pour décrire l'inflation. Pour reprendre l'analogie de la sortie en montagne, ces simulations permettent de voir combien de randonneurs restent bloqués au cours de la balade en fonction du profil de la randonnée, c'est-à-dire notamment de son dénivelé.
Alors, le profil de la randonnée, c'est cette courbe verte.
D'accord, et là, donc par exemple, on voit qu'il y a un creux, une montagne, un creux, une montagne, que ça descend globalement, mais avec des cuvettes et des monts qui sont quand même prononcés.
Exactement. Et à partir de ça, ce que nous avons fait, c'est de résoudre les équations de la relativité générale et de la dynamique de ce champ inflationnaire. Et la courbe bleue que vous voyez ici évoluer, c'est un histogramme qui représente la répartition dans l'univers, on va dire, des randonneurs qui sont coincés dans la vallée numéro 1 ou dans la vallée numéro 2, ou au contraire de ceux qui ont réussi à passer à travers ces collines et en pratique à finir l'inflation.
Et s'il y a trop de randonneurs bloqués, on peut même imaginer un scénario où l'univers tout entier ne sort jamais de sa phase d'inflation. Bon, ce scénario, on sait qu'il n'est pas arrivé pour notre univers. Et heureusement, parce que sinon, notre planète n'aurait jamais existé. Mais dans une des simulations, c'est ce qui se passe. Sébastien appuie sur Play pour lancer la simulation et sur le graphique, une courbe bleue danse sur une courbe verte avant de se séparer en deux.
Au fur et à mesure que l'inflation se développe, le fait que cette courbe bleue, cet histogramme qui représente les valeurs de l'inflaton se sépare en deux, correspond exactement, dans l'analogie, au fait que le groupe de randonneurs se sépare en deux et ne sont plus en contact l'un avec l'autre. Ça, c'est le cas extrême. Et donc, le résultat de notre étude, dans ce cas-là, c'est que les fluctuations quantiques ont été telles que l'inflation ne s'arrête pas, ce qui ne sera pas le cas dans un cas intermédiaire qui va donner naissance à nos trous noirs primordiaux. Les trois scénarios principaux que nous avons étudiés correspondent à trois lois possibles régissant l'univers pendant la phase d'inflation. Ce sont trois modèles théoriques probables. Le travail des théoriciens, c'est de considérer des théories possibles, d'en déduire les prédictions, de savoir lesquelles sont exclues, et s'ils ne sont pas exclus, de dire aux observateurs, alors, dans ce scénario, il y a tel effet remarquable dont on va pouvoir espérer trouver une trace dans le ciel. Et donc, typiquement, dans nos trois cas d'école, le premier correspond à un univers finalement assez standard, avec pas de propriétés particulièrement remarquables, mais c'était une façon pour nous de valider notre outil numérique et nos simulations. Dans le cas le plus extrême, on ne savait pas, avant de le considérer, que ça ne pouvait pas décrire notre univers, mais en l'occurrence, ça ne peut pas décrire notre univers, parce que dans ce cas, la simulation nous révèle que l'inflation ne s'arrête pas.
Mais du coup, cette simulation, elle invalide un modèle théorique.
Exactement. Les simulations ont permis, dans ce cas-là, de dire « ce modèle ne peut pas décrire notre univers observable ». Dans le troisième cas, qui est le plus intéressant, c'est un cas intermédiaire entre les deux, alors la majorité des randonneurs finissent la randonnée. Ça veut dire que dans la majorité des sous-endroits de l'univers considérés dans notre simulation, alors l'inflation va bien se terminer, in fine. Mais certains des randonneurs n'auront pas eu assez d'énergie pour traverser toutes ces montagnes russes, vont rester bloqués dans certaines vallées. Et du point de vue des régions de l'univers qui ont arrêté l'inflation, ces endroits seront vus comme des trous noirs, donc des trous noirs primordiaux générés dans les premiers instants de l'univers.
Comment vous décrivez ça? C'est un bout d'univers qui s'est replié sur lui-même, qui a fait une forme de bulle? Qu'est-ce que c'est exactement?
Alors c'est assez difficile à se faire une image concrète, pour être honnête. D'ailleurs, quand nous on a trouvé ça initialement dans les simulations, on ne savait pas du tout qu'en fait ça allait donner naissance à des trous noirs primordiaux. Mais on s'est rendu compte en cherchant dans la littérature que certains scientifiques avaient pointé un effet du doigt assez similaire il y a quelques années, un effet qui était encore assez mal connu, qui est vraiment propre à la relativité générale, qui est que pour les endroits de l'univers qui sont restés dans cette vallée, eux sont dans un état d'inflation éternelle. Mais pour les personnes à l'extérieur de ces régions, qui ont fini l'inflation, ils voient ces régions comme un trou noir. Ils n'y ont pas accès de la même façon qu'on n'a pas accès à l'intérieur d'un trou noir. Mais ce qui est vraiment remarquable, c'est que ce ne sont pas du tout des trous noirs de type standard, les trous noirs de type standard qui sont des cadavres stellaires. Ici, c'est presque tout un univers à part entière qui vit à l'intérieur du trou noir et qui est entièrement déconnecté du reste de l'univers.
Merci Loïc Dutoit pour cette balade. Vincent Vénin, votre réaction à l'écoute de ce reportage, on voit quand même que l'hypothèse des trous noirs primordiaux, ça a plusieurs intérêts.
Oui, ça a plein d'intérêts en cosmologie. Et les travaux de Sébastien Renaud-Pétel, que je connais très bien, ils permettent d'en illustrer certains des avantages. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les mécanismes de formation des trous noirs primordiaux que Sébastien et d'autres physiciens étudient, ce sont des mécanismes qui sont entre guillemets connus, dans le sens où ce sont les mêmes mécanismes qui expliquent pourquoi il existe des structures à l'intérieur de l'univers. Donc en fait, ce qu'on comprend aujourd'hui de la cosmologie, c'est que l'univers a démarré dans un état qui était homogène, hein, ou en tout cas que l'inflation a rendu homogène très rapidement. Donc homogène, c'est-à-dire que les propriétés sont les mêmes partout, dans tous les points de l'espace, donc il y a la même quantité de matière partout, dans tous les points de l'espace. Et puis, au fur et à mesure que l'inflation a lieu, il y a un mécanisme de fluctuation quantique qui apparaissent. Un petit peu comme dans le rayonnement de Hawking, d'ailleurs, les équations sont très similaires pour décrire les deux phénomènes, même s'ils n'ont pas grand-chose à voir, à part le fait de partager leurs équations. Et ces fluctuations quantiques, elles sont amplifiées et elles donnent lieu à des petites perturbations de densité, c'est-à-dire qu'à la fin de l'inflation, c'est plus vrai que l'univers est homogène, il y a des endroits avec un petit peu plus d'énergie, un petit peu plus de matière, et des endroits avec un petit peu moins de matière. Et là où il y a des grumeaux de matière, là où il y a ce qu'on appelle des surdensités, c'est là où les structures vont se former, parce que sous l'influence de la gravitation, ces surdensités vont s'effondrer et vont fabriquer des galaxies, galaxies, des amas de galaxies, des étoiles, des planètes, etc. Donc la raison pour laquelle l'univers n'est pas homogène aujourd'hui, et il est très très inhomogène, dans cette pièce tout est inhomogène, il y a de l'air entre vous et moi, donc c'est vraiment à cause de ces fluctuations quantiques pendant la phase d'inflation. Donc ces fluctuations quantiques, on les a étudiées et on les observe dans l'univers depuis de nombreuses années, et ce mécanisme inflationnaire-là, pour les fabriquer, on le comprend relativement bien. Maintenant, l'idée, c'est que, aux très grandes échelles, donc quand on mesure la distribution de matière sur des très très grandes distances, celles des galaxies, des amas de galaxies, initialement, ces perturbations de densité sont très faibles. Elles ont une taille très faible, de l'ordre de 100 millième. C'est-à-dire, si la température, c'est 1 degré ici, à côté, ce sera 1 degré plus 100 millième de degré, mais ça reste très très faible. Mais il existe des scénarios d'inflation, dont celui dont Sébastien parlait, dans lesquels, en fait, à plus petite échelle, sur des distances plus courtes, on peut fabriquer des fluctuations plus grandes. Donc des endroits où tout d'un coup, on va avoir beaucoup, beaucoup plus de masse et d'énergie qu'à d'autres endroits. Et ces régions-là, elles sont particulières parce qu'elles vont fabriquer un trou noir, en fait, mais dès la fin de l'inflation. Donc, ces trous noirs, ils commencent à exister bien avant que les premières étoiles existent. Donc, c'est évidemment pas des trous noirs stellaires. Ils viennent pas de cadavres d'étoiles. Les étoiles ne sont même pas encore nées. Mais ils sont là dès le début et ils ont des propriétés assez remarquables. Notamment, ils peuvent avoir des masses qui sont très différentes de celles des trous noirs stellaires.
Ces trous noirs primordiaux, Romain Javel, justement, dans votre publication, les trous noirs chevelus que vous décrivez ne peuvent être que des trous noirs primordiaux, c'est ça? Ils sont d'ailleurs, on l'a pas dit, hein, ils sont chargés magnétiquement.
Oui, tout à fait, parce que en fait, dans l'univers à l'instant auquel on vit, on n'a pas les conditions propices à leur formation. Alors, notamment parce qu'ils sont porteurs d'une charge magnétique. Et une charge magnétique isolée, ça n'existe pas. Donc, pourquoi ça n'existe pas? Donc, par exemple, si on prend un aimant, il y a un pôle nord et un pôle sud. Et si on casse cet aimant en deux, on ne va pas se retrouver avec un pôle nord et un pôle sud isolés, on va se retrouver avec deux aimants. Donc, actuellement, il semble ne pas exister de processus qui produit des charges magnétiques. Par contre, au tout début de l'univers, donc avant même l'inflation, en fait, l'univers était décrit par une théorie qui va au-delà du modèle standard des particules, qui s'appelle la théorie de la grande unification. Et dans cette théorie de grande unification, l'une des prédictions remarquables, c'est la production de monopôles magnétiques, donc de pôles nord magnétiques isolés ou de pôles sud magnétiques isolés. Donc si maintenant on combine ces monopôles magnétiques primordiaux avec les trous noirs primordiaux qui se forment ensuite, eh bien on peut imaginer des trous noirs qui absorbent un monopôle magnétique et donc qui deviennent chargés. Et à partir de là, une fois qu'on a le champ magnétique, on a les conditions nécessaires pour avoir l'apparition du cheveu. Une autre possibilité de formation, mais qui se passe toujours dans les premiers instants de l'univers, c'est on produit des trous noirs primordiaux à un moment donné où il y a des fluctuations, tout est fluctuant, et notamment le champ magnétique est fluctuant. Et si par hasard, des lignes de champ magnétique coupent l'horizon de la bonne façon d'un trou noir primordial, alors ça va former deux trous noirs primordiaux chargés magnétiquement. Et après, l'histoire reste la même, il y a un champ magnétique intense, et donc ça crée le cheveu.
Alors donc en effet, ces trous noirs chevelus ne pourraient pas se former aujourd'hui, comme vous venez de nous l'expliquer, mais en revanche, selon ce papier, ils pourraient être encore présents aujourd'hui dans notre univers. Ça amène à cette question, est-ce que ce serait possible de confirmer cette théorie de façon expérimentale, Romain Javel?
Alors, pour essayer de confirmer ça expérimentalement, il y a plusieurs choses qui existent. Alors déjà, il y a tout ce qui va être lié aux détections de trous noirs primordiaux normaux. Donc c'est-à-dire, par exemple, si on détecte donc aujourd'hui, on est capable de détecter les ondes gravitationnelles qui sont issues de la fusion de deux trous noirs. Donc c'est des ondes, des vagues dans le tissu même de l'espace-temps qui se propage jusqu'à nous. Et on est capable d'extraire la masse des trous noirs qui sont en train de fusionner. Si on trouve un trou noir extrêmement léger, par exemple, typiquement moins d'une masse solaire, on va dire, alors on sait que ce trou noir ne peut pas être stellaire, donc ça pourrait être un trou noir primordial. Après, si on est capable de faire ça, il faudrait ensuite, pour vérifier que c'est bien des trous noirs chevelus, essayer de mesurer, par exemple, détecter le champ magnétique de ce trou noir. Parce que le fait que ça soit quelque chose de chargé magnétiquement, ça va créer un champ magnétique très différent de celui de la Terre et de n'importe quel autre objet qui est en train de tourner. Donc là aussi, on pourrait avoir des effets observables. Et par exemple, une des choses que j'ai lues, une autre façon de les détecter, des trous noirs primordiaux magnétiques, ça serait s'ils sont absorbés par une étoile à neutrons. Donc vu qu'ils sont très petits, ils vont probablement pas détruire l'étoile à neutrons. Mais par contre, le fait qu'ils tombent dedans, ça peut avoir des effets mesurables. Par exemple, si l'étoile à neutrons est en train de tourner, alors sa vitesse de rotation va changer brusquement. Et ça, des effets de vitesse de rotation d'étoiles qui diminuent brusquement, ça a déjà été observé, mais bon, ça pourrait être d'autres choses que des trous noirs primordiaux. Donc pour l'instant, on a juste des petits indices potentiels, mais...
Ces étoiles à neutrons, comme les pulsars, vous dites que ça pourrait être des bons alliés pour leur détection.
Oui, en gros, c'est ça. Ou alors après, des effets sur d'autres objets classiques, quoi, genre des étoiles normales, pas forcément des étoiles à neutrons.
Vincent Vénant, justement, quelles sont les possibilités? Comment vérifier expérimentalement le théorème de la calvitie?
Alors, c'est une chose délicate. Comment connaître l'origine d'un trou noir, c'est difficile, notamment parce que s'il n'a pas de cheveux, on peut en mesurer que la masse, le spin et la charge électrique, qu'on disait en début d'émission. Donc c'est compliqué de connaître son origine. Il y a quand même certaines choses qu'on peut faire. En fait, il y a un peu deux questions. Il y a, étant donné un trou noir, est-ce que je suis capable de dire s'il est primordial ou non? Et ça, c'est quasiment impossible, sauf si, en effet, on détecte un trou noir de masse plus petite que la masse du Soleil, parce qu'à ce moment-là, on sait qu'il ne peut pas provenir de l'effondrement d'une étoile. Les étoiles qui sont plus légères que le Soleil ne donnent pas de trou noir quand elles s'effondrent, elles donnent autre chose. Donc, il n'existe pas de trou noir stellaire de masse plus petite. Comme les trous noirs, on les voit surtout par les ondes gravitationnelles qu'ils émettent lorsqu'ils fusionnent avec d'autres trous noirs. On voit surtout les trous noirs les plus gros, parce que c'est eux qui émettent le plus d'ondes gravitationnelles. Donc des trous noirs de masse inférieure à celle du Soleil, les instruments dont on dispose aujourd'hui, malheureusement, ils peuvent en voir s'ils se situent proches de nous, mais s'ils sont très éloignés, on ne les verra pas. Et donc, peut-être que d'ici quelques années, ce sera le cas, mais pour l'instant, c'est délicat. Après, il y a une deuxième question qui est, étant donné une population de trous noirs, parce que maintenant, les trous noirs, on en connaît un paquet, on n'en a pas vu juste un ou deux, on en a vu des grandes quantités. Étant donné une population, est-ce que je peux dire au sens statistique du terme si cette population a de bonnes chances de contenir des trous noirs primordiaux ou pas? Et là, c'est un peu différent, parce qu'à l'intérieur de certains modèles, on est capable de dire des choses sur la distribution de masse dans ces trous noirs, ou la distribution des spins aussi, donc la façon dont les trous noirs tournent sur eux-mêmes. On s'attend en général que les trous noirs primordiaux aient des spins faibles, donc ils tournent faiblement sur eux-mêmes, alors que les trous noirs astrophysiques auraient des spins très importants. Le LIGO-Virgo, cet interféromètre à ondes gravitationnelles, il tend à montrer aujourd'hui que la majorité, même la quasi-totalité des trous noirs observés ont un spin faible. Donc bon, peut-être c'est une indication de leur origine primordiale, mais évidemment, il faut être très prudent avec ce genre de conclusion. Donc là, on aurait peut-être un moyen de tirer au clair l'origine de ces trous noirs.
Et rapidement, pour conclure, avec LISA, le premier interféromètre spatial capable de détecter des ondes gravitationnelles depuis l'espace.
Alors ça, ce sera une énorme avancée. Hein, pour expliquer en deux mots pourquoi est-ce que ça change tout, c'est parce qu'aujourd'hui, on détecte des fusions de trous noirs comme des événements individuels. Donc, quand deux trous noirs, pas trop loin de chez vous, fusionnent, ils émettent des ondes gravitationnelles, vous les voyez avec LIGO-Virgo, vous voyez un événement de temps en temps. LISA sera tellement performant qu'il sera capable de détecter ce qu'on appelle le fond diffus d'ondes gravitationnelles. Fond diffus d'ondes gravitationnelles, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis le début de l'univers, des trous noirs ont fusionné en permanence autour de vous, et que tous ces trous noirs ont émis des ondes gravitationnelles, qu'aujourd'hui, tous ces signaux s'ajoutent, vous n'arrivez pas à les résoudre, vous n'arrivez pas à savoir quelle fusion a donné, mais la somme de tous ces signaux est détectable et contient une quantité d'informations.
Voilà, nous avons consacré une émission sur LISA. LISA va plus loin, on vient de vous poster le lien du podcast. Merci Vincent Vénin, merci Romain Gerval. Tout de suite, un tout autre sujet avec la chronique Avec Science, une chronique signée Alexandre Morales.
Comment mesurer l'efficacité de la gestion des parcs nationaux africains? Cette année, nous fêtons le centenaire de la création du premier parc national du continent africain, le parc des Virunga, fondé en avril 1925 dans l'est du Congo. Depuis cette première expérimentation, les aires protégées se sont multipliées à travers le continent et on en compte aujourd'hui près de 7000 un peu partout en Afrique avec des niveaux de protection variables. Ces aires sont une stratégie absolument centrale dans les politiques de protection du vivant puisque le continent abrite près de 20% des forêts mondiales, des zones essentielles essentiels pour la biodiversité de la faune et de la flore. Ce sont aussi des lieux de captation du carbone atmosphérique, des réservoirs de CO2 pour atténuer le changement climatique. Néanmoins, pour assurer une conservation efficace, il faut y mettre les moyens et les ressources financières manquent parfois sur le continent africain, mais aussi en Asie ou en Amérique du Sud. En conséquence, des ONG appuient financièrement et techniquement la gestion de ces aires protégées depuis des décennies. Cela se faisait traditionnellement dans le cadre de contrats d'aide au développement qui duraient rarement plus de 5 ans et qui ne permettaient pas de construire des aires protégées efficaces. Mais depuis une vingtaine d'années, des co-gestions État-ONG de longue durée se mettent en place avec des contrats qui peuvent aller jusqu'à 40 ans. Une publication dans la revue PNAS fait le point sur l'efficacité de ces nouvelles stratégies. Sébastien Desbureaux est économiste, chercheur INRAE et premier auteur de cette publication.
Donc un premier travail que nous on avait fait, c'était déjà de recenser tous ces partenariats publics-privés qui existent sur le continent. Et on en a recensé 127 à travers 16 pays. Et donc parmi ces 127, il y a une variété bien sûr des arrangements qui existent. Ils vont pas prendre exactement tous la même forme, mais de manière générale, il va y avoir un mécanisme de co-gestion qui va être mis en place avec à la fois des agents étatiques, notamment les gardes-parcs, pour faire respecter la loi de la protection de la nature dans les différents pays en question, et puis les staffs civils des ONG qui vont travailler ensemble, souvent en fait avec une seule ligne de gestion et pas avoir en fait deux sous-équipes qui travaillent de manière séparée. Donc arriver à fusionner des employés publics et des employés d'ONG dans une même institution.
Pour mesurer l'efficacité de cette fusion, les scientifiques ont choisi de regarder l'évolution de la déforestation dans ces parcs en la comparant avec celle de zones contrôle, donc qui ne faisait pas l'objet de ces partenariats longue durée. Ils expliquent ce choix par l'importance des conséquences écologiques de la perte du couvert forestier, mais aussi parce qu'on parvient très bien à suivre ce phénomène sur de grandes surfaces et de longues périodes grâce aux observations satellites. Et ce qu'ont pu observer les chercheurs, c'est une dynamique de déforestation en baisse dès 5 ans dans les parcs qui bénéficient de ces partenariats publics-privés, ou PPP comme les appelle Sébastien Desbureaux. Une tendance qui s'accentue ensuite avec les années et qui confirme l'importance du travail sur le long terme.
En moyenne, ces 127 parcs ont permis de diminuer de 55% la déforestation. Et un point qui nous apparaît assez frappant, c'est que on a des parcs qui initialement faisaient face à des pressions anthropiques vraiment importantes, qui vont être situées proches de villes ou dans des zones avec une forte pression démographique, par exemple toute la région des Grands Lacs sur le continent africain, et qui avant l'établissement de ces PPP faisaient face à des niveaux de déforestation qui étaient importants. Et dans ces parcs-là, la mise en place des PPP a conduit à une baisse vraiment importante de la déforestation en pourcentage, 66%, donc du coup aussi en termes d'hectares protégés en quelque sorte.
Ces démarches de protection prennent du temps et les partenariats de plusieurs décennies permettent donc de construire des institutions solides. Les prochaines études viseront à mesurer les conséquences de ces co-gestions sur les riverains de ces parcs qui doivent y trouver leur compte pour que les programmes soient efficaces. Ces populations souvent pauvres sont généralement les premiers vecteurs de déforestation tout simplement pour assurer leur subsistance. De nombreux programmes de conservation co-gérés avec les ONG incluent désormais des volets sociaux. Reste donc à évaluer leur efficacité.
Merci Alexandre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Noémie Eliazor, Bruno Sansini, Loïc Dutoit, Ali Ruyère-Thompson. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Dali Yaha. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.